Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 30 novembre 2022, dernier jour du mois. Et hier, j'ai fait un bref calcul depuis que j'ai commencé à rédiger ces chroniques boursières, que ce soit depuis mon mail professionnel en 2006 ou via le Morning Bull dans la Tribune de Genève dans les années de crise, j'en suis pratiquement à 4750 chroniques. Autant vous dire qu'il y a forcément des cycles qui se répètent et le sentiment de déjà-vu revient régulièrement. Il y en a un qui revient souvent, c'est celui de la journée qui ne sert à rien. Pour ceux qui n'ont pas compris, la journée qui ne servait à rien, c'était hier. Peu importe ce qui est sorti, que ce soit lié à la Chine, à l'inflation, ou aux prédications diverses et variées des gourous, ça ne servait à rien. Hier matin, nous étions tout motivés parce qu'il y avait des données du CPI qui sortaient en Allemagne et en Espagne. Il semblait plus qu'évident que cela devait être un game changer. Et en plus, que ce soit en Allemagne ou en Espagne, dans les deux cas, l'inflation a chuté massivement. Le CPI allemand était attendu à 10,4% et il est sorti à 10%. Quant à l'Espagne, il était attendu à 7,4% et il est sorti à 6,8%. Quand on voit que lorsque les Américains ont amélioré leurs chiffres à eux de 0,2% et que le marché a pris 10% dans la foulée, on aurait pu s'attendre à une vague de feux d'artifice au travers de l'Europe et à voir Madame Lagarde entamer une danse de la victoire en arrivant au poteau de corner comme si elle avait marqué le but victorieux de la Coupe du Monde. Pourtant, il n'en fut rien, que nenni. Alors on nous dira que oui, bien sûr, nous avions déjà tout pricé en montant lors de la publication des chiffres américains, parce que tout visionnaire que nous sommes, nous savions déjà que ça serait meilleur, et que notre besoin obsessionnel de tout anticiper, eh ben, on avait tout anticipé, justement. Les chiffres de l'inflation en Allemagne et en Espagne ne nous ont donc absolument rien apporté de neuf, et je suis pratiquement certain que les mêmes chiffres qui seront publiés par la France et l'Europe ce matin ne nous avanceront pas plus. Ceux de la France parce qu'ils sont magouillés avec leur bouclier tarifaire et ceux de l'Europe ne devraient être qu'une interpolation mathématique de ceux de la France, de l'Allemagne et des autres. En gros, on sait, on savait et on saura. Un des autres sujets de la journée, c'était la Chine. En ce moment, la Chine est clairement une des grosses interrogations du moment. Nous sommes partagés entre révolution, stimulation économique et allègement des mesures anti-Covid. C'est d'ailleurs comme cela que l'on peut résumer les 48 dernières heures en Chine. Lundi, on se révolte. Mardi matin, le gentil gouvernement de Xi Jinping nous invente un 243e stimulus économique qui ne va pas fonctionner. Dans la nuit de mardi à mercredi, on parle de rumeurs qui laisseraient supposer que le toujours aussi gentil gouvernement de Xi Jinping pourrait éventuellement peut-être alléger les mesures anti-Covid. Rumeur qui a probablement été dégotée par le Wall Street Journal. Mais peu importe le rythme des infos qui proviennent de là-bas et peu importe qu'elles soient complètement à l'opposé les unes des autres, on dirait que les intervenants s'en foutent comme de leur première publication des minutes du FOMC meeting à l'époque où les bourses électroniques n'existaient pas encore. Et puis, ça n'est pas tout, puisque ce matin, on apprend que les chiffres du PMI chinois sont nettement en dessous des attentes. Ils ont annoncé un chiffre de 48 contre 49 attendu et contre 49,2 le mois dernier. Si l'on avait encore un doute sur le fait que la Chine était en contraction, il est clairement levé. Pourtant, malgré ce nouveau chiffre tout pourri au pays des dragons et des raviolis à la vapeur, d'ailleurs je prendrais bien un 39, un 56 et un 42 pour midi, oui, malgré ce chiffre tout pourri, le marché ne fait strictement rien. J'en suis à me demander s'il ne serait pas plus simple de fermer les bourses mondiales en attendant le FOMC meeting du 13-14 décembre, de les rouvrir pour fêter l'annonce de Powell et de fermer jusqu'au 2 janvier 2023. Au chapitre des rumeurs, il y avait aussi celle qui disait que selon une personne proche du dossier, mais qui préfère garder l'anonymat, aurait laissé entendre que l'OPEP serait sur le point de réduire la production de l'or noir. Le baril qui s'était fait déglinguer sur les rumeurs et les craintes de voir la Chine entrer en révolution et en ralentissement économique, a donc rebondi massivement pour aller titiller les 80 dollars sur le WTI. Les analystes et autres diseurs de bonne aventure sur le sujet se sont tous jetés sur le sujet pour revenir avec des nouvelles visions pour les mois à venir. Alors à ce stade, je pourrais me moquer de l'analyste de Goldman Sachs qui est revenu avec la même théorie qu'il y a deux semaines, mais avec un price target différent. 110 au lieu de 115 en 2023, ce qui va clairement tout changer à la pompe. Je pourrais aussi me moquer des multiples avis divergents à ce sujet que l'on trouve dans la presse de ce matin et dire que quand on en sait aussi peu, on a peut-être meilleur temps de fermer sa gueule, mais en l'occurrence, je vais me contenter de dire que l'on n'est pas plus avancé qu'avant et que la rumeur n'aura fait que péniblement remonter certains titres pétroliers qui ne semblent plus pouvoir aller en avant après 2 ans de bull run. Et puis, le dernier sujet qui nous occupait, c'était la Fed. La Fed et ses multiples présidents qui parlaient dans tous les coins encore et encore et encore. Et pour dire que la hausse des taux, c'est pas fini et que la Fed ne renoncera pas tant que l'inflation n'est pas en train de crier grâce. et qu'il ne faut pas s'attendre à un tournage de veste massif dans deux semaines. D'ailleurs, c'est principalement Monsieur Bollard qui fait parler de lui. Monsieur Bollard, c'est un nouveau super-héros qui devrait intégrer les Avengers de Marvel ou rejoindre Batman et Superman dans les DC Comics. Son nom sera Super-O-Kish. Il en a d'ailleurs remis une couche en disant récemment et innocemment que ceux qui imaginaient voir la Fed baisser les taux à court terme, restons à définir le mot court terme, ces gens-là se fourraient le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et encore le coude, c'était la version polie. Eh bien, figurez-vous que même ce genre de divagation de la part d'un banquier central n'impactait pas le marché. Il faut dire que cet après-midi, il y a le grand patron, le big boss, Jérôme Powell, qui va parler. Et du coup, on s'est empressé de boucler la séance sans rien faire, si ce n'est taper sur Apple parce qu'ils ne vont plus jamais vendre des iPhones. Tout ça pour vous dire que la journée d'hier n'aura servi à rien, si ce n'est à réviser les sujets qui nous préoccupent et à remarquer que personne n'a dit le moindre mot sur la guerre en Ukraine, sur les chaînes d'approvisionnement, ni sur le fait que nous n'aurons pas assez d'électricité pour se chauffer cet hiver, que l'énergie est trop chère et la pénurie de col roulé pourrait se faire sentir plus vite que prévu. Non, là tout de suite, on attend Jérôme ce soir, et puis entre deux, on va se faire le CPI en Europe, les JOLTS et les chiffres de l'emploi version ADP qui sont censés nous donner la direction des chiffres de vendredi. Il faut donc retenir la séance d'hier comme étant une séance beauf, et que celle d'aujourd'hui ne risque de pas être mieux. Surtout, lorsque l'on regarde les nouvelles du jour, on ne peut qu'avoir envie de retourner se coucher. On notera donc Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de SBF, est toujours en liberté et donne des interviews dans tous les sens. Il participera même à une conférence à New York, conférence où Madame Yellen devrait être présente. SBF sera en vidéoconférence pour éviter le FBI, mais quand même, il y a des gens qui vont payer pour écouter parler ce guignol pendant une heure. On vit une époque formidable, comme dirait Yvan. Autrement, on n'entend que du mal sur Elon Musk. Certains estiment que son brassage d'air sur Twitter et sa guerre personnelle contre Apple est en train d'entamer sa crédibilité. Et puis ce matin, CNBC annonce que Tesla est toujours numéro 1 dans les voitures électriques aux USA, mais que sa part de marché est en train de fondre avec l'arrivée de véhicules électriques moins chers. Pour terminer, on notera aussi un article en pleine page du Barron's qui estime que les signaux de récession via le marché obligataire sont au plus haut depuis 40 ans. En résumé, sur près de 4750 chroniques boursières depuis 17 ans, 9 mois et quelques jours, j'ai constaté qu'il doit y en avoir à peu près 400 durant lesquels je me suis dit... Est-ce que ça vaut bien la peine de l'écrire ce matin, tellement il n'y a rien à dire et tellement la journée ne servit à rien? Et puis, pourtant, je l'ai écrit quand même. Et là, ce 30 novembre 2022, je me demande encore si j'ai eu raison de me lever. En bref, on attend le CPI en Europe, le discours de Powell qui ne devrait pas nous avancer des masses. Et ensuite, on dira qu'il faudra voir ce que les chiffres de l'emploi nous réservent. Et on fera le bilan en disant qu'il y a déjà plus de 65 000 personnes qui ont été licenciées en un mois. Et que ça se rapproche des chiffres de licenciement mensuels durant la Grande Dépression et que c'est énorme. Mais qu'en même temps, la Grande Dépression, personne que l'on connaît ne l'a vécu. Et que c'est peut-être mieux d'attendre le FOMC meeting de décembre, parce que là on aura vraiment des réponses. Et à cet instant très précis, je me rends compte que sur 4750 chroniques, ça doit être la 750e fois que je dis ça. Allez, à demain.